France Culture.
France Culture, salle des archives, les animaux de la ferme. Épisode 6, le sourire du chat.
Je suis sûr qu'il y a un peu partout en France des gens épris de nature qui au printemps se lèvent avec l'alouette pour écouter la musique matinale. Oh, il n'est pas très important d'être connaisseur, de savoir exactement de quelle gorge provient chaque son de l'orchestre des oiseaux. Laissons cela aux spécialistes. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit plutôt de s'en aller balader, le nez au vent, à travers champs et bois. Bien sûr, il faut être seul, car les bavards peuvent tout gager.
Nous voilà en mai 1954 et Ludwig Kor nous emmène dans les champs. Nous suivons une route qui sent les bourgeons, les feuilles nouvelles, la pluie et la terre retournée. Maintenant voilà une ferme qui se profile avec ses odeurs de paille, de cuir et de fumier. Mais Ludwig Kor, lui, ce sont moins les odeurs qu'il veut nous faire remarquer que les sons.
Ça vous connaissez, je suis sûr.
Ludwig Kor est né en 1881 à Francfort en Allemagne dans une famille de mélomanes. Enfant, il a reçu en cadeau un phonographe avec lequel il s'est mis à enregistrer des animaux et notamment des chants d'oiseaux. Et son premier enregistrement, il l'a effectué alors qu'il n'avait que 7 ans. Ludwig Kor entre dans la vie en devenant musicien, mais sa carrière musicale est brève. On le retrouve bientôt employé par la maison de disques EMI, chargé de créer la branche culturelle de la société, le département des livres audio en quelque sorte. Cette activité le conduit ensuite à la BBC, où il présente des émissions faites à partir de ses enregistrements animaliers. Nous avons retrouvé dans la salle des archives une version française de ce programme. Elle date de 1951.
Je pense que c'est une bonne occasion pour vous faire entendre un de nos animaux que tout le monde connaît, un des angulés pères et domestiques. C'est la vache. Les ancêtres étaient très sauvages, les aurochs, ourous, les buffles sont encore des animaux sauvages et tout ce qu'il y a de plus dangereux. Mais moi, j'avais la grande patience d'attendre pendant 5 jours et nuits après la naissance d'un taureau. Et je vous fais entendre le bruit de la vache pendant la naissance, ne durant pas plus longtemps que 15 secondes.
À la radio, il y a le sens et il y a le son. Le sens comporte un message explicite. Dans notre cerveau, il active les réseaux de neurones liés au langage. Le son, lui, laisse davantage de place à l'interprétation, à l'imagination. Il active des zones de notre sensibilité qui sont liées à l'émotion. J'imagine que la méditation, par exemple, joue un peu sur les mêmes régions du cortex. Ce qui est sûr, c'est que le plaisir d'écouter des sons de la nature est évident, même s'il s'agit de sons enregistrés. Quand on enregistre du son pour la radio, on appelle cela une ambiance. Très souvent, nous jugeons, à tort d'ailleurs, l'ambiance secondaire par rapport au sens, parce qu'elle paraît ne nous donner aucune leçon, elle semble être là juste pour être là. Or, la plupart des humains recherchent prioritairement le sens. Ils veulent avant tout comprendre. Et pourtant, écouter une ambiance sonore nous apporte du plaisir. Peut-être justement parce qu'elle n'exige pas de nous de penser immédiatement, mais de dresser nos oreilles, à la manière des chats ou des chiens qui ont entendu un bruit lointain et qui s'immobilisent pour l'identifier. Le son a cette vertu de nous détacher du flot de nos réflexions. Il nous ramène à quelque chose de plus primitif par le simple fait d'écouter, sans juger, sans forcément réfléchir, simplement en étant là, un peu, je le disais, comme dans le cas de la méditation. Par nos oreilles, nous assistons à une scène sonore, un peu comme si nous observions un paysage face à nous en prenant plaisir à l'admirer. C'est cela qu'avait saisi Ludwig Kor quand il se baladait dans les champs et dans les fermes avec son attirail de micros et d'enregistreurs sur le dos. Son cerveau de mélomane retrouvait un plaisir similaire à celui que lui procurait la musique, mais par l'enregistrement de sons. Dans notre vie d'humain, tout est question de perception. La manière dont nous voyons ou entendons le monde conditionne notre façon de le comprendre et de communiquer avec les autres. Or, nous savons tous qu'il n'est pas toujours facile de communiquer entre humains, alors autant vous dire que quand il s'agit d'animaux, on n'est pas sorti de l'étable avant la fermeture.
J'ai le chien en face de moi, il me regarde, très bien. J'allais dire normal, je le regarde, il me regarde. Et puis soudain, il regarde derrière moi. Où il n'y a rien, rien, rien d'important naturellement. Et c'est, alors là, c'est ce qui est formidable, c'est que son regard me transperce comme si je n'étais rien, comme si j'étais transparent. Et d'un seul coup, il est en arrêt à contempler un point invisible, comme s'il y avait derrière moi un extraterrestre, comme s'il y avait une ombre, un fantôme, une absence de la plus redoutable fascination. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui le fascine que je ne vois pas? Et d'un seul coup, le chat, par justement ses perceptions qui sont pour nous extrasensorielles, mais qui ne sont pour lui sensorielles, sans doute, ou métaphysiques, allez savoir. En tout cas, ce chat nous donne l'illusion d'une sorte de totale vacuité de ce que nous sommes, quoi. Et le chat nous dit, vous êtes... Toi, à qui je vis, t'es rien, quoi. Enfin, moi, je vois des trucs que tu vois pas, je pense à des choses que tu ne penses pas. Et on a l'air comme ça d'un minable, d'une sorte de présence comme ça, argileuse, engluée dans des sensations médiocres, dans des perceptions limitées. C'est assez vertigineux, quand même.
Jessica Serra, vous êtes éthologue et spécialiste de la condition animale. Vous avez notamment écrit « Dans la tête du chat » aux éditions Humaine Science, que vous inspire cet archive de 1997 de l'écrivain Frédéric Vitoux.
Alors d'abord, je la trouve magnifiquement dite. C'est des mots qui moi me touchent. Pourquoi ? Parce qu'elle nous transporte littéralement dans l'umwelt du chat, c'est-à-dire la réalité du chat telle qu'il la perçoit à l'aide de ses propres sens. Et ça nous interroge forcément, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'est-ce que la réalité finalement ? Est-ce que c'est la réalité telle que nous la percevons avec des sens qui sont quand même assez limités en termes par exemple d'audition ? Ou est-ce que finalement la réalité du chien, la réalité du chat n'est-elle pas plus fidèle au réel ? Moi, c'est un vrai questionnement que j'ai.
On ne peut pas vraiment trancher parce que la réalité, elle est multiple et justement, c'est la perception qu'on en a qui fait la réalité.
Exactement, et c'est là où on se dit que notre réalité d'être humain n'en est qu'une parmi des millions d'autres et qu'il faudrait apprendre, et c'est fabuleux, et c'est l'objet de la collection que je dirige aussi, Mondes Animaux, c'est d'apprendre à se projeter dans la tête d'autres espèces pour voyager à travers leur sensorialité, à travers leur manière de penser le monde. Et c'est, je crois, le plus beau voyage qu'on peut faire.
Alors, est-ce que vous diriez, comme on l'a entendu dans l'archive par Frédéric Vitoux, que le chat nous méprise ?
Alors non, pas du tout. Je crois que simplement on oublie que le chat est un félin. Son ancêtre n'est pas le loup comme le chien, c'est un chat sauvage de nature assez solitaire pour les chats sauvages qui ont été étudiés et qui a appris au fur et à mesure de sa coévolution, là encore avec l'humain, à finalement s'intégrer dans un environnement humain tout en gardant une part de sauvage. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, ce qui me touche en tout cas chez cette espèce qui est quand même une espèce domestique. Hein, ça, ce sont des études génétiques à l'appui. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le chat domestique a bel et bien été domestiqué, mais qui est le seul parmi toutes les espèces domestiques à avoir su préserver un degré de liberté dans ses mouvements et dans sa reproduction. Et finalement, cette emprise que nous n'avons pas sur lui, ça nous agace, parce que nous, les animaux avec lesquels on a l'habitude de partager notre quotidien, c'est des animaux sur lesquels on a généralement une emprise totale, un contrôle total, que ce soit au niveau de la reproduction, parce qu'on les parque, parce qu'il faut qu'ils répondent au doigt et à l'œil comme le chien. Et le chat, finalement, ne répond pas au doigt et à l'œil. On comprend moins bien le chat, que ce qu'on comprend le chien. Et donc, on le juge finalement suffisant, méprisant, voire psychopathe, alors qu'on est très très loin de la réalité.
Qu'est-ce qu'il pense de nous, le chat, quand il nous regarde?
Il sait qu'on n'est pas un chat déjà, parce que c'est une question que j'ai souvent. Est-ce que le chat nous considère comme un gros chat? Non, parce qu'il n'agit pas envers les humains comme il le fait avec les chats. Donc il s'est très bien catégorisé humain versus chat. En revanche, on sait que d'un point de vue affectif, le lien d'attachement qui peut se créer entre le chat et l'humain est quand même très très fort. Oui, les chats peuvent bel et bien s'attacher à leur humain. Oui, les chats peuvent ressentir beaucoup d'anxiété quand leur humain disparaît de leur champ de vision ou quand ils sont dans un nouvel environnement sans leur humain. Et que finalement, cette espèce de vie secrète des chats sur laquelle nous n'avons pas beaucoup d'emprise, ça nous fascine, ça nous turlupine, mais pour autant, le chat, c'est un animal qui quand même a su s'intégrer à de nouveaux environnements humains. Et le chat est quand même un individu très malléable.
Reprenons le fil de notre histoire, celle qui raconte la façon dont l'écrivain George Orwell a représenté les différents animaux dans son livre « La ferme des animaux ». Le chat est loin d'être l'un des personnages principaux de sa fable. Il faut dire que si cet animal est très fréquemment présent dans les fermes, il n'est pas souvent considéré comme un animal de la ferme, sans doute parce qu'il n'est pas un animal productif. Le véritable animal de la ferme, c'est en effet celui qui travaille pour le fermier, ou en l'occurrence chez Orwell, pour les cochons. Chez l'auteur d'Animal Farm, le chat ne peut donc pas avoir de rôle politique, car il est un peu en dehors de la communauté. Il est une sorte de rentier qui ne travaille pas, tandis que les autres animaux s'activent. Il n'est donc ni impliqué, ni engagé. Il sera toujours l'observateur ironique qui se met en retrait du monde et regarde de loin les autres se débrouiller.
La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas ou le soir après le travail fait, et comme si de rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnait de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute.
Jessica Serra, que retenez-vous de cet extrait ?
Il n'est pas totalement faux, il est assez juste sur certaines choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on a, par cet écrivain, l'impression que le chat occupe une place marginale qui vit finalement à la périphérie du système social, là où, dans sa fable, les chevaux incarnent le travail, les cochons le pouvoir, les moutons plutôt, la masse docile, et bien le chat, c'est l'individualisme absolu. Donc il ne participe pas aux tâches collectives, il ne contribue pas à l'effort commun, et pourtant il bénéficie des ressources de la ferme, on lui donne à manger. C'est certes un personnage secondaire, mais ça révèle beaucoup sur la société que décrit Orwell, c'est-à-dire une société où certains vont échapper à la logique du travail, mais malgré tout tirer leur épingle du jeu grâce à la ruse plutôt que la dévotion ou la loyauté. Et je trouve que le chat symbolise quelque part cette forme de désengagement politique. Finalement, le chat, il suit le mouvement quand ça l'arrange et il disparaît si on attend quelque chose de lui qu'il ne veut pas accomplir. Pour autant, je trouve que le chat, on y revient, a su s'adapter à la vie avec les humains, profite certes de nos ressources, mais il va établir, le contact va un peu au-delà de cela, puisque le chat établit un véritable lien affectif, tout en conservant sa part de liberté, parfois fois sa part de méfiance et de distance. Mais je trouve qu'effectivement, ce personnage d'Orwell illustre parfaitement cet équilibre entre opportuniste, autonomie, capable de cohabiter sans jamais se fondre dans le système, qui a su préserver sa part de sauvage.
Est-ce que, puisque dans la ferme des animaux, il y a plus d'humains, est-ce qu'on a vu des chats prendre parti pour défendre d'autres animaux ?
Oui, alors moi je l'ai vu ne serait-ce que chez moi, c'est-à-dire que un jour ma chienne s'était faite attaquer et mon chat s'est interposé. Donc on voit aussi des liens qui peuvent se tisser entre espèces animales. D'ailleurs, on dit souvent il y a le mythe chat-chien qui s'entendent pas du tout, et moi parfois celui qui domine dans la maison, là si on parle de domination, c'est le chat, hein, clairement, c'est pas le chien qui est 10 fois plus gros que le chat. Pour autant, lorsqu'il y a un danger qui s'approche, le chat va être très solidaire de mon chien.
Dans la ferme des animaux d'Orwell, on peut avoir le sentiment que le chat est celui qui s'en sort le mieux. Retiré de la lutte des classes qui enflamme la vie des autres espèces, il tire son épingle du jeu là-bas, dans le fond bien chauffé de la ferme. C'est un peu l'impression qu'il donne aussi quand on le regarde vivre parmi nous. Au fond, le chat est notre maître. Parfois, on retire un meuble du salon pour lui installer un arbre à chat. Souvent, il refuse de venir nous voir parce qu'il a mieux à faire pour l'instant. Et je ne veux pas dire par là qu'il aurait une tâche urgente à accomplir. Non, pour le chat, avoir mieux à faire, c'est n'avoir rien à faire et préférer ne rien faire. Le cinéaste Alain René avait même fini par se demander si Dieu n'avait pas conçu l'homme pour s'occuper du chat.
Imagine-toi une seconde que Dieu ait créé le chat à son image.
Le chat?
Oui, le chat. Après des millénaires ou quelques heures, je ne sais pas, Dieu aurait créé l'homme.
L'homme?
Oui, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps.
D'esclave?
Parfaitement. Ainsi au chat, Dieu aurait donné l'indolence et la lucidité, et à l'homme la névrose, la passion de construire et de posséder les choses.
Ah, je vois, oui.
Mais tu ne vois rien du tout. Ainsi, l'homme n'aurait été créé que pour prendre en charge l'existence du chat. Tu comprends?
Oui, je comprends.
Voilà. Toute la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but. Offrir au chat le confort, le manger et le gîte.
Au chat?
Parfaitement. Ainsi, l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Le pêcheur breton, le plat de sûre, le tapis, le coussin, le radiateur, le bol. Peut-être aussi la radio, puisque le chat aime bien la musique.
Et oui, nous aussi à la radio, nous sommes sous les ordres directs des chats. Alors, ils peuvent nous frustrer un petit peu, parfois, les chats, quand on les regarde nous ignorer. Mais la frustration est éventuellement réciproque. Est-ce qu'il arrive que nous soyons une source d'agacement pour les chats ?
Oh oui, souvent, ça arrive très souvent. Même quand on pense très très bien connaître son chat, parfois on est surpris, notamment lors d'une séance de caresses intensive où le chat ronronne, il est bien, on est devant la télé, sur le canapé, devant le feu, et d'un seul coup le chat se retourne et nous mord, et on comprend pas, et alors là on le traite de psychopathe, on est déçu par lui, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce chat, il m'a trahi, etc. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des chats, nous sommes des bons primates, et en tant que bons primates, nous adorons caresser les autres. C'est une sensation qui nous est toujours fortement agréable, en oubliant la sensibilité tactile du chat.
C'est beaucoup plus forte.
Qui est très très développé effectivement par rapport à la nôtre. Et donc quand on caresse un chat un peu trop longuement, un peu trop fortement, la sensation elle va devenir très désagréable pour lui. Sauf que le chat, il vous envoie plein de signaux pour vous dire stop. Et vous ne les voyez pas. Alors les signaux, c'est le hérissement subtil de ses poils, c'est la queue qui commence à battre, à fouetter, et vous continuez à caresser, et vous êtes surpris alors que le chat vous a fait des signaux stop à peu près 28 fois avant qu'il vous morde.
Donc il nous trouve un peu bêtes parfois.
Je pense qu'il nous trouve un peu limités parfois, en effet, parce que on a du mal à comprendre tous ces signaux, et pourtant il nous en envoie énormément.
Alors si le chat est un petit peu notre dieu aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, et notamment au Moyen-Âge, où il a été vu comme un suppôt de Satan, on brûlait les chats, on les jetait par-dessus les remparts de la ville. Comment vous expliquez l'évolution de la perception du chat ?
Alors, j'y avais consacré tout un chapitre dans mon livre parce que ça me fascine énormément. Le chat, plus que le chien, plus que n'importe quel autre animal, a subi finalement a été sous le joug de nos croyances pendant des millénaires, et ça a été terrible pour lui. Parce qu'il y a eu des époques où le chat était une réelle figure sacrée, notamment en Égypte antique. Le chat en Égypte, c'est un compagnon du quotidien, mais c'est aussi une divinité. Il est associé à la déesse Bastet, qui est une déesse absolument adulée, qui est protectrice du foyer, qui est une déesse qui incarne aussi la sexualité féminine, la maternité. Et on adule cette déesse. Donc le chat, qui finalement est l'incarnation d'un dieu sur Terre, on l'aime parce que c'est un animal de compagnie, mais aussi parce qu'il représente cette divinité. On le représente d'ailleurs beaucoup dans l'art. On va lui offrir une vie après la mort à travers la momification. Et on a envers lui un respect absolument exceptionnel, au point que tuer un chat, même par accident, peut entraîner des sanctions extrêmement sévères.
C'est l'âge d'or du chat, alors, l'Antiquité.
C'est l'âge d'or du chat. Et puis, donc j'ai cherché aussi à comprendre, en remontant le fil de l'histoire, comment ça se fait qu'à un moment de l'histoire, par contre, on parle moins du chat, ou en tout cas pas en des termes positifs. Et effectivement, quand on se projette beaucoup plus tard, donc au Moyen-Âge, en Europe, l'image du chat va complètement se renverser à cause essentiellement du pape Grégoire IX, qui va rédiger une bulle pontificale de mémoire en 1233, où il va associer un chat noir au diable, qui se livre à des espèces d'orgies avec des hérétiques. Et à ce moment-là, le statut du chat va considérablement varier, puisque les chats vont être les bêtes à exterminer. Ils vont être associés aussi à la sorcellerie, aux sorcières, etc. Et finalement, cette image de la féminité, de la sexualité en Égypte antique, c'est ce qu'on va chercher à ligoter, à combattre au Moyen-Âge. Et le chat, parce qu'il incarne plus que n'importe quel autre animal ce côté sorcière et ce côté hérétique, eh bien, il va être exterminé en masse. Et il faut bien voir que rien ne va leur être épargné. Il y a toutes sortes de pratiques à cette époque. On va les emmurer vivants, on va les jeter du haut des falaises, on va les brûler vifs, et on va les brûler vifs très tardivement. Les feux de la Saint-Jean, jusqu'à il y a peu, consistaient à enfermer des chats dans des paniers, à les faire brûler vifs. Et on pensait qu'au cri qu'ils faisaient, eh bien, on faisait partir les âmes, les mauvais esprits des sorcières.
J'ai commencé à aimer les chats quand j'étais enfant. D'ailleurs, les chats devaient être liés à l'idée que je me faisais de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 8 ans, mais qui était déjà âgé, et qui représentait pour moi celui qui aimait les chats. Et ma mère qui ne les aimait pas. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai peut-être inventé ça après. Et donc j'ai toujours aimé des chats, et j'ai eu des chats. Et puis quand on est jeune, on fait parfois avec les chats des choses qu'après on trouve monstrueuses. On les emmène à la campagne, on les perd. Il y en a un que j'ai emmené à vélo d'ici à la campagne, où je suis toujours. Et comme il ne voulait pas entrer dans un panier, qui n'était pas un panier à chats, qui était un panier à provisions, je l'ai endormi à l'éther. Et c'était horrible, et je me souviens maintenant de ça, je me dis c'est pas possible, à 19 ans aimant les chats, j'ai fait une chose aussi horrible. Et une fois que je l'ai amené là-bas, je l'ai sorti du panier, il s'était réveillé entre temps, et puis il est parti, il m'a jamais pardonné évidemment, puis il ne connaissait pas l'endroit. Donc on aime les chats, mais on les fait souffrir.
Jessica Serra, quelle réaction sur cette anecdote de l'écrivaine Juliette Rabe en 1995 ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de mauvais traitements, alors parfois qui sont conscientisés. Il y a des personnes qui sont violentes et qui vont manifester leur violence parce que c'est plus facile sur leurs animaux de compagnie, et surtout, en particulier, parfois sur les chiens, qui sont des animaux dociles par nature envers l'humain et qui montrent difficilement les crocs quand le maître les bat, etc. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Et puis, il y a cette maltraitance passive par des gens qui pensent aimer leurs animaux et qui ne se rendent pas compte qu'ils le maltraitent parce qu'ils le laissent enfermer trop longtemps, parce qu'ils le laissent sans stimulation, et parce que parfois, en l'anthropomorphisant justement, en lui prêtant des intentions qui ne sont pas les siennes, eh bien, ces animaux vont être punis. Donc moi, j'entends souvent, mon chat a fait une bêtise, il a fait ses griffes sur le canapé, je lui en ai collé une, comme ça, il va comprendre. Et là, je me dis, ne t'étonne pas si ton chat, à un moment donné, se montre agressif parce que vous rompez en faisant cela, on rompt le lien de confiance qu'on a avec le chat. Et le lien de confiance avec un chat, et avec un chien d'ailleurs, hein, mais il est fondamental pour que finalement l'attachement ne se brise pas à un moment donné. Parce que quand vous n'avez plus cette confiance, c'est très très difficile de faire marche arrière et d'aller dire à son animal oh, « ça y est, c'est bon, je t'ai endormi à l'éther, ça va aller mieux le prochain coup ».
Est-ce que le chat a une morale ?
Alors, c'est une vraie question, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on définit par la morale ? La morale humaine, on le voit bien, c'est une construction. Le bien et le mal, on ne le considère pas de la même manière suivant qu'on vit aux États-Unis, en Arabie Saoudite ou en France. Y a des choses qu'on tolère, d'autres qu'on ne tolère pas. Par contre, il y a un consensus assez humain, c'est qu'on ne tolère pas en tant qu'être humain l'injustice. Donc, ce sens de l'injustice où, par exemple, on va voir un enfant se faire tuer par un adulte, c'est quelque chose qui irrite assez naturellement les humains. Et ce qu'on sait, c'est que chez les animaux, cette empathie, ce sens moral, il est largement partagé. En fait, l'empathie qu'on pensait être le propre de l'homme, d'ailleurs on parle souvent de l'humanité, d'être humain, c'est quoi ? C'est être empathique envers les autres. Eh bien, cette empathie, elle est en fait assez commune au sein du règne animal. Elle remonte finalement aux prémices de l'évolution de beaucoup d'espèces animales. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi d'être empathique lorsqu'on élève ses petits, d'avoir l'empathie. Si le lien d'attachement qui va se créer nécessite aussi de se mettre à la place d'eux, etc. Et donc les liens qui vont se construire vont être extrêmement puissants entre les animaux et les humains aussi. Et il faut se libérer un peu des œillères que nous avons construites d'un point de vue sociétal où il y aurait d'un côté les animaux qu'on met dans notre assiette, de l'autre les animaux de compagnie qui méritent toute notre attention parce qu'il y a tellement d'animaux qui sont sensibles, qui ont une intelligence, qui ont une manière de penser le monde. Quand on voit la manière dont on les traite, il y a encore malheureusement beaucoup à faire.
Il est bien loin, et heureusement, le temps où l'on jetait les chats par-dessus les remparts des châteaux forts. Dans la guerre que se font parfois les hommes et les animaux, le chat compte aujourd'hui de nombreux alliés, comme par exemple les guerrieros du chat libre. Allez, une dernière archive avant de nous quitter, elle date de 1991.
La nuit, on entendait des coups de feu à un moment donné, maintenant on n'en entend plus. Parce que c'était une façon de s'en débarrasser, et qui pourrait porter plainte pour un chat errant, puisque la chose qui vaut le moins cher dans notre société, vous savez ce que c'est dans la ville, c'est le chat errant. Ça vaut moins que rien. Et nous lui avons donné un prix considérable. Voici ces dames qui vont se présenter. Et chacune de ces personnes nourrit des chats dans Paris, des chats en liberté, hein, c'est-à-dire que chaque comité a un compte en banque qui est le compte en banque du chat libre. Hein, c'est-à-dire le chat libre est un citoyen qui est immatriculé, qui a sa carte d'identité et son domicile. Il aura son domicile même au cimetière Montmartre, bien que M. Pernin ne réponde pas à nos lettres.
On a l'impression qu'on vit dans la clandestinité, entouré de l'hostilité, de la méfiance. On a l'impression qu'on va poser des bombes sous les voitures ou des choses comme ça. Alors,
On est plutôt tourné en ridicule.
Même quand on est jeune comme elle, vous vous rendez compte ? Encore quand c'est une vieille noire, je comprends. Puis alors on lui dit, oui, vous feriez mieux vous occuper d'enfants, etc., etc. Comme si donner une boîte de ronrons à un enfant, hein, si vous voulez, privé de nourriture.
À un chat, vous voulez dire ?
Ah oui, à un chat, pardon. Et alors ces gens-là vous donneraient rien du tout. Hein.
Décidément, les chats ont réussi à nous endoctriner. Bien plus malins que tous les autres animaux de la création, ils ont su faire en sorte que des guerrieros, rien que ça, s'organisent pour les protéger. Chez Orwell, la milice du dictateur est constituée d'une meute de chiens. Mais dans la vraie vie, ce sont des miliciens humains qui se sont mis au service des chats. Le plus remarquable est sans doute qu'ils sont arrivés à ce résultat le plus discrètement du monde, comme ils ont d'ailleurs l'habitude de le faire quand ils s'approchent de nous. Plus que l'intelligence artificielle ou les milliardaires de la tech, ce sont donc les chats qui nous gouvernent. Alain René le savait, mais nous n'avons pas voulu l'entendre. Orwell le savait aussi sans doute, ce pourquoi il n'a jamais osé s'attaquer frontalement à leur caste. Il les a laissés dans l'ombre de sa fable, peut-être avait-il peur pour sa vie. Il savait que celui qui règne sur la ferme, en vérité avec son petit nez rose, c'est lui, c'est le chat. Et le chat, ça le fait bien rigoler. « C'était Les animaux de la ferme, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire, Anne-Vanessa Prévost et Lily Corner. Prise de son Anthony Thomasson, documentation musicale Antoine Vuillose, mixage Dofar Guéride. Thank you.